Alors, Stubora, est-ce que tu peux nous présenter le groupe, s'il te plaît?
Oui, donc le groupe un peu d'historique, donc c'est un quatuor qui a commencé en 1996, avec Cyril comme le leader du groupe, le guitariste chanteur actuel, avec un premier album qui est sorti en 98, donc une influence vraiment death metal. Et en 2005, le bassiste part, donc il y a Mick, qui est le bassiste actuel et chanteur aussi, qui arrive dans le groupe. Il remplace d'abord pour deux dates, et puis Cyril lui demande de rester parce qu'il y a une autre influence, et il voudrait changer un petit peu le style. Donc ils font leur bonhomme de chemin avec encore deux albums jusqu'en 2014. Et là, leur batteur les lâche, il y a un problème, ça ne se passe plus bien, donc il part et ils recherchent des batteurs, ils font des essais à plusieurs reprises, ça ne fonctionne pas, jusqu'au moment où ils passent une annonce, moi je réponds à cette annonce, et puis ça marche tout de suite, on s'entend bien, on est de la même génération, voilà, ça colle parfaitement. Et donc ma collaboration avec eux date de 2014, on sort l'album Résurrection fin 2015, où ça porte bien son nom, hein. Ça veut dire que ben, là le groupe arrive tout doucement à maturité, on a plus de 40 ans tous les trois, et puis on a roulé notre bosse, on a bourlingué, on veut se fixer sur quelque chose et travailler très sérieusement, et donc résurrection dans tous les sens du terme, hein, tant au niveau du genre musical que de nos aspirations, de nos ambitions. D'accord. Et donc, il y a aussi un bond en avant au niveau sonore, où là, on investit, on a chacun nos home studios, et on fait vraiment de l'autoprod. Donc, voilà, pour arriver, 4 ans après, à la sortie de Horizon Noir, qui nous a pris 2 ans de préparation.
D'accord.
Et l'apogée au niveau son, au niveau tout, en autoproduction en tout cas.
Avant d'intégrer le groupe, tu les connaissais déjà ou...
Absolument pas. Non, moi je venais de Vendée. J'étais en Vendée et puis je cherchais un groupe en revenant sur la Lorraine. Et donc j'étais sur un site spécialisé, j'ai vu cette annonce-là, j'ai répondu. Voilà.
D'accord. Justement, comme pour essayer de me te connaître, avant Stubora, tu peux un peu nous parler de ton parcours musical?
Oui, j'ai commencé très très tôt, mon père était musicien, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai appris la batterie en faisant de la musette, en intégrant le groupe de musette de mon père, et puis les fanfares, les harmonies, j'ai très vite été à l'Académie de musique, conservatoire, et puis j'ai fait mon premier groupe de rock vers 16 ans à peu près, et puis à l'âge de 20 ans, je suis passé professionnel, donc j'ai travaillé beaucoup à Bruxelles. Je me suis orienté vraiment vers le jazz, donc j'ai fait les scènes jazz à Bruxelles. Il y avait le Cercle, il y avait le Centre à cette époque-là. Et puis ensuite, je me suis tourné vers le jazz fusion, le rock fusion, où j'ai travaillé beaucoup des plans de Dave Weckl, Vinnie Calagutta, Steve Gadd, ces gens-là. Pour découvrir enfin vers l'âge de 23-24 ans, découvrir Dream Theater et son batteur légendaire, ex-batteur Mike Portnoy, où là je suis tombé vraiment amoureux de son jeu, et donc je me suis dit oh, mais ça m'intéresse vraiment d'explorer ça et tout, donc j'ai commencé à travailler la double pédale, etc. et tout, et en plus il avait ce batteur avait cette finesse de pouvoir utiliser des décalages dans les temps musicaux, etc., qui m'intéressait vraiment et que j'avais maîtrisé déjà auparavant dans la fusion, puisqu'on fait beaucoup ça dans la fusion. Et donc, j'ai associé un peu les tout, j'ai fait un melting pot de ça, un checker, et puis c'est sorti le cocktail Niala maintenant avec Stubora. Voilà.
D'accord. Donc, j'ose à peine demander entre le débat Mangini versus Portnoy, t'as fait ton choix.
Oui, tout à fait. Moi, c'est Portnoy. Mancini, elle est très bien. Elle est très bien. Elle est un excellent batteur. Sauf que, voilà, son jeu m'inspire moins. Je trouve un jeu un peu plus simpliste. Voilà, qui n'enlève rien d'efficacité dans Dream Theater. Mais bon, voilà. Et je suis de nouveau Portnoy dans son groupe Sons of Apollo actuellement, où il travaille aussi avec des monstres virtuoses.
D'accord.
Et ça, voilà, moi c'est vraiment Portnoy qui m'intéresse vraiment, et avec de la double pédale avec 150 000 notes à la minute, ça m'intéresse pas vraiment.
Ok. Voilà. Donc si je vois un peu ton parcours, t'es quand même, comment dire, t'as monté en intensité, t'es passé donc comme je disais de la musette au un heavy rock très marqué.
Ouais.
Tu penses que ça a été une enfin donc tu disais c'est lié à tes goûts aussi ce que tu veux découvrir, mais en termes techniques c'est aussi une progression ou comment t'as abordé ces différentes évolutions stylistiques?
Je me suis toujours intéressé au rythme. Le rythme je l'ai dans la peau depuis tout jeune. Et moi c'était une évidence de travailler ça, bien que j'ai appris d'autres instruments en autodidacte, mais même au conservatoire, je veux dire, j'ai fait 10 ans de conservatoire batterie percussion, j'ai pas appris, je me trouve pas à ce niveau-là aujourd'hui en étant allé au conservatoire. Après j'ai été autodidacte là-dedans, j'ai piqué à droite à gauche des plans, je les ai écrits, je les ai travaillés. Et les influences, elles sont ce qu'elles sont et je les ai travaillées. Moi, au lieu d'aller faire du sport ou sortir avec mes copains, etc., moi, je passais mon temps à faire des heures et des heures et des heures par jour pendant mes vacances scolaires, etc. Je faisais des heures et des heures de batterie par jour. Donc, il n'y a pas de secret. On travaille. Pour moi, on peut être doué, mais le talent, pour moi, c'est de pouvoir s'intéresser à un rêve qu'on a et de poursuivre. Pour moi, c'est ça le talent.
D'accord.
C'est ce que disait aussi Jacques Brel.
Okay. Et t'avais de bons rapports avec tes voisins ou?
Ça n'a pas toujours été le cas. Après oui, parce que j'étais dans une cave, j'avais capitonné, tu sais, avec des cartons 2, etc. Tu vois. Mais sinon oui, ça s'est quand même pas trop mal déroulé sur ce plan-là.
Portnoy, il est aussi connu. Alors Mangini l'a fait le jeu aussi à ce jeu-là, mais sur des espèces de kits de batterie totalement délirants. Avec des énormes, avec des trucs partout. C'est un truc qui toi te un peu le côté c'est un truc qui te trouve amusant ou ça te passe au-dessus complètement?
Alors non, c'est absolument pas amusant, c'est utile. Moi je justement tu mets le doigt dessus, je viens de commander ma nouvelle batterie là qui bon malheureusement n'arrivera pas avant juin juillet prochain.
Mm-hmm.
Mais et elle va être de cette envergure là, donc c'est
ah, oui.
j'ai besoin de travailler sur une batterie comme celle-là et tout est utile et tout est mis au service de la musicalité. Même si on a une grosse batterie, c'est vrai que si j'avais perduré dans le jazz, je m'achetais une jazzette avec 3 tomes et c'était fini. Là, non, c'est pas le cas. C'est une batterie qui va être de cette envergure-là. Ouais.
D'accord. Si on revient donc un peu en arrière, tu le mentionnais, donc entre guillemets nouveau départ avec Renaissance. Comme je disais, le titre est assez parlant. Si on essayait de résumer toute la période de Renaissance entre la composition, l'enregistrement et les concerts qui ont pu suivre, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui pour toi synthétise un peu toute cette période de Renaissance?
Oui, il y en a plusieurs, mais quand on a sorti l'album Résurrection, c'est plus puissant que Renaissance.
Pardon.
Mais non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ce qui a été marquant, c'est déjà l'évolution que Cyril a pu avoir dans le son, dans le matériel qu'il a eu. Pour une autoprod, on est assez satisfait du son. Résurrection était déjà un bond en avant au niveau des autres albums qu'ils avaient produits avant. Là, c'est encore pire maintenant parce que chaque fois, il y a une évolution de la part de Cyril qui va se documenter à droite à gauche, etc., avec du nouveau matos qui arrive. Et puis, je trouve que Horizon Noir est vraiment l'apogée du son. Je ne sais pas si on pourra faire mieux, sauf si on investit encore dans du matériel, mais voilà. On avait pensé produire, en tout cas masteriser chez un ingé son, mais bon, les coûts étaient quand même assez élevés et on ne s'est pas permis ça. On s'est dit, allez, on va essayer de continuer par nos propres moyens comme ça et on va donner le meilleur de nous-mêmes.
Mm-hmm.
C'est ce qui s'est passé. Alors, des souvenirs vraiment marquants, oui. Après, on a eu une période où on était en Chine avec un tourneur. Ça s'est mal terminé, il nous a planté. Mais bon, on a quand même pu faire quelques dates rapprochées et on se rend compte que quand on fait des dates assez rapprochées, eh bien on prend le move et on acquiert vraiment une technique de scène et une habitude de scène qui est très intéressante et ça m'a vraiment marqué et on a fait deux belles scènes qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. Voilà.
D'accord. finalement, donc à la fin de la période, je vais pas me tromper cette fois-ci, résurrection. Donc tu disais, tu parlais de 2 ans pour le nouvel opus. Donc au moment de vous retrouver pour justement dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de la suite, comment ça se passe entre vous au niveau, est-ce que vous avez un process de création typique?
Oui, en fait, vu qu'on a un trio et qu'on a éclaté géographiquement. On a été obligé chacun d'avoir un home studio à la maison. Mmh. Et donc les compositions sont faites par Mick et Cyril, les textes aussi. Moi j'apporte ma touche finale au niveau de la batterie et des arrangements musicaux et rythmiques. Donc ils se penchent chacun de leur côté sur des compositions qui leur viennent comme ça au hasard des jours, etc. Ils se penchent dessus, ils les enregistrent, ils se les refilent par fichier interposé. Et ensuite, ils les retravaillent chacun de leur côté en se téléphonant, en se disant, ben là, tu pourrais peut-être faire plus ça, etc. et tout. Donc, il y a déjà tout un travail entre deux qui est fait comme ça. Quand la composition est plus ou moins finalisée, une structure, squelette, à ce moment-là, ils échangent avec moi, ils me balancent les fichiers, et moi, je travaille chez moi à la batterie. Je fais une pré-ébauche de ce qui m'intéresse de jouer, etc. Et puis on se rencontre chez moi, on répète chez moi, et on commence à finaliser tout ça ensemble à trois.
Ok, et c'est sûr.
Ça a pris un an de préparation. Mmh.
Sur les fichiers qu'ils t'envoient, est-ce qu'il y a une batterie témoin ou pas du tout?
Oui, il y a une batterie témoin qui font avec une boîte à rythme, un truc qu'ils imaginent au point de départ, ce qui les aide aussi à avoir la pêche pour faire la démo, ce qui est mieux qu'un flic traditionnel.
Ouais, bien sûr.
Et puis après, j'écoute ça, ils m'envoient toujours une version avec leur piste témoin, batterie, boîte à rythme, et une version en temps parallèle où il n'y a plus rien.
Okay.
Donc, moi, je m'inspire plus ou moins de ce qu'ils ont pour respecter leur création. Je m'inspire. Avec mon expérience, je parviens à leur, je leur fais 5 ou 6 pistes de batterie différentes. Donc après, on fait un mix de tout ça. Ils disent, parce que t'as fait là la batterie, j'aime bien. Donc je prends note, j'écris. Le fait que j'ai fait du conservatoire me permet d'écrire la musique. Donc j'écris et puis on synthétise, on finalise tout ça. Et quand tout est finalisé, eh bien, on attaque l'enregistrement qui a pris un an parce que au départ, on a finalisé 20 titres quand même. Et on en a retenu que 13 à la fin. Voilà pourquoi le chiffre 13 sur l'album. Il y a toute la partie mixage, mastering, etc. qui prend beaucoup de temps. Donc ça n'a pas été 12 mois d'enregistrement, mais il y a quand même eu pas mal de temps où il faut reposer les oreilles, il faut se concerter, il faut faire la jaquette, c'est tout un lourd travail.
Mmh. Les 7 titres qui n'ont pas été retenus, c'est poubelle ou c'est on se les garde et on sait jamais?
Non, il n'y a jamais rien qui est mis à la poubelle. C'est quelque chose qui vient des tripes du cœur, donc on le conserve. Par contre, il n'est pas exclu qu'on le retravaille après. Alors ils n'étaient pas mauvais, mais on a estimé qu'ils n'étaient pas à la hauteur des autres titres, tout simplement, ou qu'ils sortaient un petit peu, qu'ils ne rentraient pas tout à fait dans le fil conducteur, dans le fil Ariane de ce qu'on voulait.
D'accord. Peut-être un aspect qui est peut-être moins connu des amateurs, des auditeurs, c'est le choix de l'ordre des titres, du tracklist. Quelle importance ça a à vos yeux? Pourquoi, tu vois, Ténèbres éternelles démarre et puis Tout peut finir demain termine?
Parce qu'on a imaginé, bon, ça vient du cœur aussi, c'est aussi notre senti à nous, ce qu'on préfère, naturellement, humainement, je dirais, moi, personnellement, je crois que l'identité arrive en troisième position, si je m'abuse. Moi, j'aurais plutôt mis en premier, on a beaucoup réfléchi sur l'identité parce que c'était un titre. Alors, je vais pas parler de commercial parce que c'est peut-être un gros mot dans le milieu du métal, mais c'est un petit peu ça. On a aussi Soleil Noir qui est la balade phare du
au milieu.
Voilà, il y a aussi le fait que Ténèbres éternelles est le premier single qu'on a sorti avec un clip qui nous paraissait donc être un titre assez péchu et après ça nous apparaissait une évidence de le placer en premier lieu sur l'album, mais le choix n'a pas été facile. Mmh. Et donc ils sont tous bien, mais pourquoi le dernier n'est-il pas au milieu ou en premier? Bah parce qu'on estime, nous, qu'il a peut-être moins d'impact ou moins de poids. Ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'on sait qu'il y a une radio qui passe régulièrement ce dernier titre, justement. Donc, c'est à l'appréciation de chacun. Et il faut bien trouver un premier et un dernier. Donc,
Oui, bien sûr. Un autre élément qui a marqué un nouveau chapitre pour Stubora avec Résurrection, c'était le fait de passer en complet chant français. Alors que avec le chant entièrement en français.
Ah oui, français, oui.
Alors qu'avec jusqu'à The Almighty, il y avait plutôt de l'anglais et puis un peu de français.
Ouais, il y avait un peu, ouais.
Pour Horizon Noir, il n'y a pas eu de débat sur ce sujet-là.
Absolument pas. Absolument pas. Pour Horizon Noir, ça nous est apparu comme une évidence. On s'est beaucoup posé la question pour Résurrection. On s'est si on part en français, il faut quand même savoir qu'il y a des raisons pour lesquelles on est passé à 100% français. Alors quand je dis 100%, c'est qu'il n'est pas exclu dans l'album prochain, il n'y a pas un refrain qui soit en anglais.
Mais
la première raison, c'est que on manque peut-être un peu de vocabulaire pour composer en anglais. On n'est pas des parfaits bilingues. Il y a toujours une pointe d'accent qui reste et qui peut paraître dérangeante, et par respect pour les auditeurs et par respect pour la langue de Shakespeare, on s'est dit, voilà, il faut peut-être partir en français. Il se fait aussi qu'il y avait des choses, des thèmes du texte qu'on voulait débattre et on se sentait plus à l'aise dans notre langue maternelle. Ça nous permettait de toucher plus profondément le public qui comprend plus les paroles, et en plus elles sont écrites dans le livret, donc voilà, c'est pour ces raisons là et donc on s'est beaucoup posé la question pour Résurrection. On s'est dit, ne va-t-on pas être relégué dans les années 80, le heavy metal comme on le connaissait, etc. Et en fait, je ne crois pas du tout, puisque actuellement, on a quand même quelques groupes qui sont quand même en français et qui tournent vraiment bien. Donc, je pense qu'on a une place à part entière sur la scène metal, rock mélodique en français.
D'accord, bien sûr. Tu disais donc une genèse, une période assez longue pour mettre en boîte cet album. Je suppose que donc beaucoup de travail en amont, et puis quand vous vous retrouvez donc chez toi pour enregistrer, vous travaillez, enfin vous enregistrez tout d'un coup, ou les 13, enfin les 20, même 13 ou 20 titres, ou vous le faites par étape?
Non, je place d'abord toutes les batteries.
D'accord.
Le premier qui enregistre, c'est moi, et je place toutes les batteries.
Donc là, tu bosses tout seul?
Ouais, chez moi.
Ok.
Je place toutes les batteries chez moi, dans mon studio, et je balance les fichiers au fur et à mesure pour que les guitares, des pistes témoins de guitare soient placées, pour que la basse soit placée après. Donc on se refile les fichiers, en fait. Et il n'y a que Mick et Cyril qui se réunissent à la fin de l'album pour faire les voix, mixage et les solos guitares. Parce que les voix, c'est plus particulier, il faut une attention plus particulière et il faut avoir une double oreille pour les voix.
D'accord. Et donc pour avoir une idée, les batteries, tu les mets en boîte en combien de temps?
Ça dépend. Moi, j'ai fait pas mal de studios, etc. Donc je suis assez à l'aise. Ça dépend. Je vais dire, pour vraiment. Je fais 3-4 prises. Ça peut durer entre 1h30, 2h pour un titre.
D'accord.
Mais parce que j'enregistre et puis qu'au moment où j'enregistre, j'ai une autre idée. Alors soit je décide de placer l'autre idée quand elle arrive dans ma tête, et puis je me rends compte que c'est pas terrible, j'ai fait une erreur, c'est pas ça qui est bien. Ou alors au contraire, j'ai placé cette idée, elle sonne vraiment bien, mais peut-être pas à cet endroit-là, donc je coupe, je fais mon business comme ça, tu vois. Mmh. Donc c'est là qu'il y a un petit peu de perte de temps, ils ont fait, mais tout ça pour un mieux. Donc voilà, mais il faut compter environ 2 heures pour un titre, quoi.
D'accord.
Mais c'est étalé sur plusieurs semaines parce que moi aussi j'ai un job et j'ai ma vie, quoi. Donc c'est pas que ça.
Et donc tu disais, en tout pour la mise en boîte, c'est un peu plus d'un an?
Oui, en tout et pour tout, le temps qu'on se fasse les fichiers, le temps que les autres mettent leur guitare, la basse, le chant, les effets, il faut faire un pré-mixage, un pré-mastering, on se réunit, on parle de la France, machin, on retravaille tout ça. Et donc, c'est toute cette durée-là prend, voilà, c'est à peu près un an, oui.
D'accord. Petite question aussi entre guillemets naïve, mais je me suis toujours demandé, est-ce que en tant que batteur, tu as forcément de ton expérience, une relation particulière avec le bassiste qui lui aussi participe à la rythmique du vent du titre?
Oui, mais alors là pour le coup, plus ça a été plus marquant sur Résurrection que sur Horizon Noir. C'est-à-dire que pour Résurrection, on s'est vu plusieurs fois avec le bassiste rien qu'en duo. Pour travailler certaines pêches dans les morceaux, pour mettre en place certaines choses. On n'a pas fait sur Horizon Noir, sans doute que les compositions n'appelaient pas à ça, et que c'était plus limpide, plus c'était plus une évidence. Et puis dans le milieu, dans le métal comme ça, c'est différent de quand je faisais du jazz ou de la fusion, où là, le bassiste c'est complètement différent, le travail est complètement différent. C'est beaucoup plus un duo basse-batterie au départ dans la fusion, que pour le métal ici. Alors je parle de métal plus comme nous, rock, métal, mélodique,
oui, bien sûr, hein.
De groupes un peu scientifiques tels Dream Theater, etc.
Oui.
Où là ils sont obligés de faire des duos pour mettre en place des choses, etc. et tout. Mais okay. Nous, voilà, c'est il y a un aspect qui n'appelle pas forcément à ça.
Ok. Tu l'as mentionné au niveau donc des différents échanges autour de la pochette de l'album. Donc je crois comprendre que c'est vous qui faites, c'est entre vous.
Oui, de A à Z c'est nous. Hein. Oui. C'est Cyril qui fait la pochette, qui fait les retouches photo, qui fait tout ça.
Et quelle était un peu l'idée justement? Alors Horizon Noir, ça arrivait vite comme titre ou?
Non, absolument pas, c'est arrivé tout à la fin. C'était en fonction des textes, etc. On a regardé un petit peu tous les textes. On a regardé un petit peu la couleur qui se dégageait de tous ces textes. Et on s'est dit que, voilà, on est tombé d'accord sur Horizon Noir. Et pour ne pas que ce soit complètement noir, etc., il y a quand même un reflet un peu doré, un peu bronze de la pochette, un peu flammé, qui donne quand même cet espoir. Mais on a voulu quand même des textes un peu revendicateurs, un peu engagés sur la planète, sur ce que l'on peut vivre à l'heure actuelle et ce qu'on va laisser derrière nous, parce que c'est un sujet très sensible actuellement et je pense qu'il faut en parler. Mais ça n'a pas été décidé au départ. Mick et Cyril ne se sont pas dit, allez, on fait un album, on va créer les textes et on va parler de ça. Non. Ça s'est fait chacun de leur côté aussi, et bizarrement, il y a deux titres qui parlent de la même chose, un chacun, et ils ne se sont pas concertés. Ça, c'est assez amusant.
D'accord. Toujours sur l'aspect visuel, donc vous avez sorti différents clips. Il y a eu Identité, qui est plutôt un clip lyrics, enfin avec les paroles.
Dessus avec un montage photo, ouais.
Ouais, alors très bizarrement, peut-être, je sais pas pourquoi, mais pourquoi Montréal?
Parce que je pense que ça doit être parce que Cyril va y travailler environ deux fois par an et qu'il doit aimer cette ville.
D'accord.
Je vais tenter de te dire pourquoi pas.
Non, mais pourquoi pas, mais c'est vrai que dans le clip, les premières images du stade olympique, moi j'y ai habité quelques années, donc je l'ai vite reconnu, et j'ai essayé de me dire, il y a peut-être un rapport, enfin tu vois, j'ai essayé un peu de trouver les images, etc. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un message ou un truc qui m'a échappé, mais après, les images, un, sont très belles, et deux, c'est une très belle ville, ouais, ça, on est bien d'accord.
Ouais, non, mais je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour te répondre à cette question, mais voilà, je sais qu'il y va régulièrement, et donc, voilà, je pense qu'il doit y avoir un lien.
Et vous avez donc sorti un autre clip également ouais. Ténèbres éternelles de mémoire, qui est là donc un clip scénarisé.
Pardon, un clip
scénarisé, enfin qui est un clip qui a été tourné avec un scénario.
Ce sont des images qui ont été prises comme ça, avec un montage où on est sur fond noir,
ouais.
où on est pris au niveau de nos têtes et au niveau des instruments.
Mmh.
Et après c'est un montage, hein, c'est pas moi. Un montage.
Et ça s'est passé, enfin c'est une expérience agréable ou une nécessité,
Non, tous nos clips ont été des expériences. influences intéressantes, bien évidemment. Non, les idées, on essaye de varier. Hein. Encore une fois, c'est de l'autoprod, donc si on avait un scénariste et si on avait tout ça, ben voilà, on ne se creuserait pas les ménages pour ça. Si on avait un budget, il n'y aurait pas de problème, on ferait sans doute autre chose. Mais on pourrait, même avec un gros budget, refaire la même chose parce que ça nous a plu et on a eu des bonnes idées et on le referait peut-être avec une qualité supérieure, mais voilà, on a voulu essayer de varier un petit peu sur ces trois clips et également le clip du titre Résurrection qui date de plusieurs années, hein, qui est
oui, oui, bien sûr.
Sur YouTube, sur le net, où là on est dans la salle à manger où je vis en fait, hein, voilà.
D'accord.
Et avec un montage, etc., où on est en clair et foncé. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord et comme la production du son, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal.
Absolument. Et donc pour un groupe de l'envergure de Stubora, ça, le clip vidéo reste quand même un outil de promotion puissant.
Oui, bah oui, à l'heure actuelle, oui, avec les réseaux sociaux, tout ça est partagé. Par exemple, Résurrection, on n'avait pas l'attaché de presse qu'on a actuellement derrière Roger. Mm-hmm. On n'avait pas tout ça et on peut regarder sur YouTube, ça stagne à combien, 1002, 1003 vues. Là par contre, Ténèbres éternelles, on est à 6005, je sais plus, en beaucoup moins de temps, tu vois.
Mm-hmm.
Donc je pense que tout ça y fait, il y a eu de la promo, voilà, Roger nous a dit sortez ça à telle date, machin, on voyait ça, on a fait le teaser, etc. On n'a pas fait ça pour Résurrection. Donc on voit bien que...
Vous voyez la différence,
ouais. Oui, bien sûr.
D'accord. Finalement, qu'est-ce qui est prévu là pour les semaines ou les mois qui viennent pour Stubora?
Alors, la recherche de date, pour l'instant on est en recherche. Et principalement, la mise en place d'un scénario de scène,
mmh.
avec des dates, hein, des concerts. Et là, ça regroupe aussi ce travail, regroupe aussi éventuellement l'achat de nouveaux matériels sur scène pour essayer d'enlever les amplis, d'avoir des retours au casque, enfin essayer de s'équiper d'une manière plus approfondie pour être plus confortable sur scène.
D'accord. Toujours là, dans tu mentionnais donc la recherche de dates. Est-ce que la relative proximité de Suisse et Allemagne et Belgique aide ou ouais. pas spécialement?
Non, pour l'instant non, parce que je pense qu'on manque d'outils, on manque d'encadrement. Encore une fois, on est seul. On essaye déjà de toucher dans notre environnement proche, qui est déjà pas trop mal. Et puis il faut avoir des contacts, on n'a pas toujours eu les bons contacts au bon moment, on s'est fait aussi rouler pas mal, on a eu des distributeurs qui nous ont distribué la moitié des CD mais qui ne le faisaient pas, mais on a eu des tourneurs qui nous ont pas trouvé de date intéressante ou qui nous ont laissé tomber, on a traversé beaucoup de choses qui a fait que Stubora a perdu pas mal de temps et voilà, donc on essaie de rattraper tout ça depuis 2015, de sortir Résurrection, d'où le titre encore une fois. Et là, non, pour l'instant, la Belgique, les pays limitrophes comme ça, non, pas pour l'instant. Mais on est ouvert à tout, bien évidemment, et on espère qu'avec ce nouveau produit Horizon Noir depuis hier, on espère que l'impact va être différent.
D'accord. Et donc, juste pour terminer, donc toi, tu habites en Lorraine?
Oui, j'habite pas très loin de Nancy.
Ok. Qu'est-ce que tu penses en général de la scène française, bah, depuis ton point de vue, donc depuis ta fenêtre, donc pas très loin de Nancy?
Bah, moi, j'estime que c'est de plus en plus compliqué par des contraintes de gouvernement, des lois, des choses comme ça. On n'est plus aussi libre qu'avant, bien évidemment. Il y a de plus en plus de lois de sécurité, de choses comme ça et tout, des choses qui empêchent un petit peu, qui refroidissent un petit peu les organisateurs, les associations, etc. Mais bon, on reste quand même dans un style musical, hein, le rock et le metal qui ne mourra jamais et qui restera toujours au plus profond de tout le monde et qui touche tout le monde. Donc il y aura toujours une scène pour nous de toute manière. Ce qu'il faut, c'est simplement trouver la clé du cadenas pour entrer.
Ok, bah en tout cas, c'est le meilleur qu'on vous souhaite. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous répondre et puis à bientôt.
C'est moi qui te remercie, Christophe. Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Allez,
ciao.
Bonne soirée à toi, au revoir.
Bye.